Raconte-nous la forêt. Au-delà des arbres et des sentiers, qu'éveille la forêt en nous ? Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui vivent avec elle, s'en inspirent, s'en imprègnent. Ils sont forestiers, marcheurs, bûcherons, chercheurs, naturalistes, citoyens, professionnels des Hautes-Alpes. Ensemble, écoutons la forêt à travers les voix humaines qui la peuplent de sens. Raconte-nous la forêt est une émission réalisée en partenariat avec Forêt Alpine. Bienvenue à toutes et à tous dans le nouvel épisode de Raconte-nous la forêt. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vianney Tingue, responsable d'unité territoriale Guy Estroy-Quéra à l'Office national des forêts. Donc un deuxième épisode autour de cette structure. Bonjour Vianney.
Bonjour.
Alors pour commencer Vianney, si tu étais un arbre, quel serait-il et pourquoi ?
Le mélèze, sans surprise, on est dans les Hautes-Alpes, parce que c'est celui qui nous intéresse tous, qui intéresse le plus de monde pour sa beauté, sa particularité de jaunir à l'automne et de perdre ses aiguilles, sa valeur économique aussi. Il est très recherché par la filière pour la construction. Il est recherché par le monde de l'élevage aussi parce qu'on peut pâturer sous les peuplements de mélèzes. C'est vraiment l'essence reine ici que tout le monde adore et j'en fais partie.
Et la question étant, si tu étais un arbre, est-ce que tu te retrouves dans le mélèze par un quelconque caractéristique ?
Peut-être la longévité. Je tiens bon dans les situations un petit peu délicates. Ça peut faire écho avec sa capacité de résistance à la sécheresse quand même, à cette essence. Et puis je suis un peu dégarni, je perds mes aiguilles moi aussi.
Et alors est-ce que Vianney, tu pourrais te présenter un petit peu plus en détail, quel est ton parcours de vie ?
Alors, moi, je suis originaire de Grenoble à l'origine. J'ai eu un parcours de formation plutôt dans le domaine de la biologie. J'ai découvert l'environnement, la forêt assez tard dans mon cursus de formation. J'ai eu la chance de me former à l'école d'ingénieurs forestiers de Nancy, l'école des eaux et forêts. Et ma première expérience m'a apporté dans le Massif central en Auvergne, où je n'ai pas été tout de suite gestionnaire forestier, mais je travaillais pour un parc naturel régional sur des questions d'animation territoriale, de la promotion de pratiques sylvicoles respectueuses de l'environnement, etc., avant d'arriver à l'Office national des forêts dans les Hautes-Alpes.
C'est ton travail qui t'a amené sur ce territoire alors ?
Oui, c'est mon travail qui m'a permis d'arriver, mais je cherchais à revenir dans les Alpes, parce que c'était mon territoire d'origine, l'envie de retrouver les sommets, et d'occuper un poste forestier, donc ça m'a guidé vers l'ONF, sachant que j'avais la ferme intention de travailler dans le domaine public. Donc quand on veut être forestier dans les Alpes et travailler pour l'intérêt général, on se retrouve à l'ONF.
Et alors, à quel moment tu t'es intéressé à la forêt ?
Ben, c'est arrivé finalement assez tard, j'ai pas eu une vocation immédiate, tout petit, comme d'autres peuvent en avoir, parce que j'ai grandi plutôt dans un milieu urbain, donc j'étais assez éloigné de ça pendant l'enfance. Et c'est arrivé un peu par défaut au fil de ma formation. Le collège, le lycée se sont bien passés. Plutôt bon élève, plutôt attiré par quand même les thématiques du vivant. Donc prépa, biologie, 2 ans au lycée de Champollion, à bourriner pour passer un concours sans savoir quoi faire après. Et au moment de choisir une école, ben, un peu par défaut, je voulais pas faire de l'agronomie, pas être vétérinaire. Donc j'ai vu une école qui traînait, qui s'appelait AgroParisTech, école des eaux et forêts, qui traitait d'environnement de forêt. Je me dis pourquoi pas. J'y suis allé, ça m'a plu, je suis ravi aujourd'hui. Mais ça arrivait du coup assez tard.
Assez tard, il n'y avait pas déjà un plaisir de lien avec la forêt en amont ?
Et finalement, pas tant, parce que comme pas mal d'enfants qui ont grandi dans les montagnes, on faisait pas mal de randonnées, de ski, etc. Et finalement, on était souvent à la recherche de vues, d'espaces ouverts. Donc, on a tendance à essayer plutôt de traverser vite la forêt pour monter dans les alpages, avoir la vue sur les sommets. J'ai longtemps fonctionné comme ça, où l'espace forestier, c'est un espace qu'il fallait traverser vite pour pouvoir profiter en haut, quoi. Et j'ai appris beaucoup plus tardivement à profiter de l'espace forestier en lui-même, tout ce qu'il apporte.
Donc à travers ton travail, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ce travail que tu réalises à l'ONF. Peux-tu rapidement nous représenter cette structure ? qu'on a présenté dans l'émission précédente avec Hervé Gazdon, qui est aussi forestier retraité. Mais voilà, pour cet épisode, peut-être rapidement pour les auditeurs et auditrices.
L'Office national des forêts, c'est la structure, l'établissement public en France qui gère les forêts publiques, donc qui sont soit domaniales, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'État, soit communales ou appartenant à des établissements publics divers et variés. Et donc gérer les forêts publiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire principalement organiser les coupes de bois et les travaux en forêt, plantation, renouvellement forestier, qui peut être aussi basé sur la régénération naturelle. Donc voilà, c'est un métier de technicien forestier, sylviculteur. En France, la forêt publique, elle est plutôt minoritaire à l'échelle nationale, mais ici, chez nous, dans le Briançonnais et dans les Hautes-Alpes en général, c'est l'inverse. Elle est clairement majoritaire et donc l'Office national des forêts a une place importante dans la gestion de ce paysage qui nous entoure.
Et toi, tu es responsable d'unité territoriale Guy Estrois Kiera. En quoi consiste cette unité ?
Alors, une unité territoriale, c'est une équipe de techniciens forestiers ou de gardes forestiers. C'est un terme qu'on n'utilise plus dans la nomenclature de nos postes à l'ONF, mais qui fait écho pour pas mal de gens. Donc, c'est une équipe de gardes. Et moi, je suis responsable d'une équipe de gardes qui est celle du Guy Estrois Kiera. Donc, on est 9, 8 techniciens et moi. Et donc, mon rôle à moi, c'est de piloter l'activité de l'équipe et d'assurer les liens, les relations entre l'équipe qui fait son métier de technicien forestier sur le terrain et la direction départementale de l'établissement AGAP. Voilà. Le job de base, on va dire, du cadre de proximité.
Et les missions qui sont effectuées par ces techniciens, quelles sont-elles ?
Eh bien, c'est principalement la préparation des coupes et des travaux sylvicoles, tout ce qui a lieu en termes de travaux en forêt, avec la particularité dans notre territoire que, et on aura l'occasion bien d'en rediscuter, qu'il y a beaucoup d'attentes sur cet espace-là, dans les Hautes-Alpes. C'est un territoire qui est utilisé par beaucoup de personnes différentes, beaucoup d'acteurs différents. Et donc, il y a nécessité de dialoguer, d'orchestrer tout ça. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est aussi ce qui fait que c'est intéressant. Mais l'essentiel du travail d'un technicien forestier chez nous, il est de préparer sur le terrain tout seul un certain nombre de choses techniques, mais après de passer beaucoup de temps à les expliquer, les justifier auprès des acteurs qui vont être impactés par les propositions.
Et donc, dans ton travail de cadre, tu es quand même en contact avec la forêt, tu es amené à aller sur le terrain ?
Oui, je dirais à peu près 2 fois par semaine, donc moins que les collègues, mais c'est encore des postes de cadre qui ont les pieds sur terre, on va dire. Donc ça, c'est ce qui fait que ça me plaît beaucoup. La plupart du temps, en accompagnement des collègues, rarement seul. Un de mes rôles, c'est notamment de venir avec eux sur le terrain quand il y a un sujet qui leur pose question, parce que ça reste un métier assez solitaire, donc ils ont quand même besoin souvent de partager leur vision, et c'est ce qui peut m'amener à aller avec eux sur le terrain, ou dans toutes les opérations collectives, et notamment le martelage, qui est l'opération qui consiste à désigner, marquer à la peinture les arbres qui vont être exploités l'année suivante. Et ça, c'est quelque chose qui est préparé par les techniciens, mais fait en équipe, et ça, j'y suis toujours pour partager un moment d'équipe et parce que c'est l'aboutissement d'un travail important sur lequel je dois aussi avoir un regard technique. Mais voilà, c'est une activité qui nous plaît beaucoup en général.
Comment tu qualifierais cette place que représente la forêt dans ton travail alors ?
Eh bien, c'est la base du quotidien, c'est-à-dire que tout est penser, réfléchir, travailler pour cet objet qu'est la forêt. Mais finalement, la technique forestière, le temps qu'on passe en forêt, c'est quelque chose qu'on maîtrise, mais qui prend finalement pas tant de temps que ça. L'essentiel du temps qu'on passe, c'est justement à accompagner, expliquer, faire de la pédagogie, à être en relation avec des tas de gens qui sont impliqués dans les projets de travaux qu'on propose.
On pourra revenir justement sur cette relation aux autres usagers. Et tu parlais de regard tout à l'heure. Qu'est-ce que tu regardes quand tu vas en forêt dans le cadre de ton travail, toujours à l'ONF ?
Eh bien, la première chose que je regarde, bon, d'un point de vue professionnel, hein, quand je diagnostique, j'interviens dans une parcelle, c'est ce qu'on appelle le capital sur pied.
C'est-à-dire
c'est quoi ce truc? C'est la quantité de bois qu'il y a dans la forêt. Pour traduire dans des termes plus familiers, le côté densité de forêt, quoi. La densité d'arbres. C'est-à-dire qu'il est important pour avoir un écosystème qui s'exprime pleinement, d'avoir une forêt qui soit suffisamment chargée pour que puissent s'exprimer tous les processus qui doivent y avoir lieu. Et c'est aussi un enjeu de production de bois, parce que si on veut pouvoir approvisionner régulièrement la filière, épuiser dans la forêt régulièrement sans bien sûr la sacrifier, eh ben, il faut qu'il y ait suffisamment de bois dans les parcelles qu'on diagnostique, qu'on parcourt. Et c'est souvent la première approche qu'on a quand on visite une parcelle, ou c'est souvent une visite pour savoir si on peut faire une coupe ou pas. Parce que s'il n'y a pas assez de bois, s'il n'y a pas assez de capital de bois, il est hors de question de faire une coupe, parce qu'après on se retrouve avec rien du tout. Quoi.
Donc la densité.
C'est ça.
Il y a d'autres aspects qui te viennent.
Et l'aspect qui vient vite, c'est j'allais encore utiliser un terme technique, de fonctionnalité de l'écosystème. C'est un peu technique, mais c'est pour dire à quel point cette forêt a l'air vivante, tout simplement.
Et qu'est-ce qu'on regarde pour ça?
Eh bien, on regarde qu'il y ait différentes catégories d'âge, des jeunes arbres, des moyens, des vieux, différentes strates de végétation, des mousses, de l'herbe, de la myrtille, du rhododendron, des arbustifs un peu plus hauts, qui peuvent être du sorbier, des oiseleurs, de l'alizé blanc, et puis des arbres, des véritables arbres au-dessus de 7-8 mètres, quoi, on va dire. Donc voilà, cet étagement et cette diversité, c'est ce qui doit sauter aux yeux. Peut-être qu'on peut retenir le terme de diversité, que ce soit dans les essences, dans les classes d'âge des arbres, dans les strates de la végétation. C'est le terme roi pour traduire le sentiment que on est dans un écosystème qui fonctionne, qui est vivant, qui du coup produit du bois, mais qui est aussi en capacité de s'adapter à tout ce qui va lui arriver, comme type d'aléa, par exemple des attaques de parasites, par exemple une tempête, une sécheresse. Donc c'est généralement un bon indice de vitalité pour pouvoir envisager des actions.
Et alors tu disais que donc tu a commencé en fait à t'intéresser à la forêt en même temps que tu es rentré dans ton activité professionnelle. Qu'est-ce que, du coup, cette activité professionnelle t'a appris sur la forêt? Qu'est-ce qu'on t'en retient, toi, aujourd'hui?
Eh bien, je retiens la manière d'observer une forêt. Alors, je l'ai beaucoup appris dans mon travail, avec une approche professionnelle, hein, économique, écologique. Et puis, risque naturel.
Donc, ce que tu disais tout à l'heure.
Exactement. Mais du coup, voilà, ça m'a appris à observer la forêt et à me rendre compte de son état de santé, on va dire. C'est principalement ce que j'ai appris en travaillant en tant que forestier. Et du coup, arriver à déceler la possibilité d'exploiter ou pas une partie, et comment le faire, de cette forêt-là.
Alors, avant de parler de ton rapport à la forêt plus personnel, on a parlé de ton regard sur la forêt dans le cadre du travail, je propose une pause musicale. Est-ce qu'il y aurait une musique que tu aimerais écouter ou faire écouter?
Oui, j'ai découvert récemment une chanson du groupe Les Mécanos, qui est un groupe originaire de Saint-Étienne, Diga, qui chante des polyphonies occitanes. Et ils ont une chanson qui dénonce les coupes à blanc, les coupes rases, dans les forêts du Massif central. Et ça me parle parce que j'ai travaillé dans ce secteur-là, j'ai aussi dénoncé ces pratiques-là. Donc c'est ce que je vous propose d'écouter.
Ce sera une introduction à une prochaine partie de l'émission, alors.
Tant tranquille, venum cum olutru naire, que barunto, dion lubre tout est pani. Tant tranquille, venum cum olutru naire, que barunto, dion lubre tout est pani. Tant tranquille, venum cum olutru naire, que barunto, dion lubre tout est pani. Tant tranquille, la terre tremulo et l'usager s'étaillent. Dans
et maille nous abritons. La terre trémoule et nous agit, c'est ta raison. Venou, et des mailles et mailles nous abritons.
Venou.
L'humus très défer avanço. L'oubaï zazembaï. Sous la mataille, c'est au mail. Que milo du taille. L'humus très défer avanço. L'oubaï zazembaï. Sous la mataille, c'est au mail. Que milo du taille. L'humus très défer avanço. L'oubaï zazembaï. Sous la mataille, c'est au mail. Que milo du taille. Bête à la Sahara, s'arrêtera, ma pas d'avant qu'il n'a plus de présent. Vertu la bête à la Sahara, s'arrêtera, ma pas d'avant qu'il n'a plus de présent. Vertu la bête à la Sahara, s'arrêtera, ma pas d'avant qu'il n'a plus de présent. Vertu la bête à la Sahara.
Aujourd'hui, nous sommes dans Raconte-nous la forêt avec Vianney Tingue, responsable d'unité territoriale GIES 3 Kera à l'ONF. Alors Vianney, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur ton rapport plus personnel. Donc, tu disais qu'il est arrivé quand même en lien avec ton travail, ce regard sur la forêt. Mais quel serait ton plus vieux souvenir en forêt ?
Je dirais s'allonger sur la mousse dans une sapinière. Parce que moi, je viens de Chartreuse, enfin du bassin grenoblois, mais plutôt au pied de la Chartreuse. Et donc, y a beaucoup de sapins, pectiniers, sapins blancs, dans ce massif-là, qu'on n'a pas beaucoup ici dans nos Alpes. Un petit peu, mais beaucoup moins. Et la particularité de ces forêts-là, c'est leur ambiance fraîche, qu'on ne connaît pas trop ici, on a des forêts plutôt sèches. Et donc, voilà, s'allonger dans la mousse et regarder la canopée en marge d'un pique-nique en famille. Voilà, ça, c'est des vieux souvenirs... un peu façon Madeleine de Proust, qui m'arrive de revivre là de temps en temps quand je traverse ce genre de forêt-là.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vas plus te balader en forêt, toi, dans ta vie personnelle, hors travail, que tu pouvais le faire avant ?
Oui, clairement, avec mes enfants et en famille, bien plus que ce que moi j'ai pu faire avant, parce que c'est un espace que je me suis approprié... maintenant, grâce à mon travail, bien plus que dans mon enfance. Et on a beaucoup de plaisir à ça, principalement à vélo ou un petit peu à pied, même si les enfants, à leur âge, voilà, 5 et 7 ans, ils ne marchent pas encore beaucoup, mais voilà, il y a un plaisir à ça.
Donc tu y vas assez régulièrement ?
Oui.
Et où ça ? Dans quelle forêt ? Est-ce qu'il y a des forêts particulièrement qui te tiennent à cœur ?
Alors nous, depuis Guillestre, on est assez facilement tourné vers l'entrée du Kera, On va beaucoup à Seillac et à Arvieux. Arvieux, pour moi, c'est un peu la palme en termes d'ambiance forestière, en tout cas esthétique. On pourrait en discuter d'un point de vue écologique, justement, vitalité, diversité. C'est pas idéal, mais d'un point de vue esthétique, balade en forêt, je trouve ça absolument magique. Les secteurs du plateau de Roux, du Quéron, et surtout à l'automne, avec l'ambiance jaune des mélèzes.
Et pourquoi, j'allais dire, donc l'automne via les couleurs, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que ça t'apparaît très esthétique ?
Eh ben, c'est les mêmes raisons qui font qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Hein. On est dans une vraie ambiance forestière, avec une forêt relativement dense, pour utiliser le terme de tout à l'heure, et avec un sol très praticable, c'est-à-dire que c'est de l'herbe. C'est de l'herbe, il n'y a pas de buisson qui pique les jambes ou quoi. On peut courir, s'allonger n'importe où, faire un pique-nique. C'est vraiment très, très beau, mais purement d'un point de vue esthétique, quoi. D'un point de vue purement écologique, ce n'est pas des forêts qui sont dans un état de fonctionnement très, très sain, mais elles ont d'autres qualités.
Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire particulièrement dans ces balades ? Est-ce qu'il y a un objet de tes balades qui te plaît en particulier ?
Nous, c'est beaucoup le vélo. Hein.
Vélo.
VTT, donc qui permet pas forcément d'explorer, de s'imprégner très profondément d'ambiance forestière, mais on profite d'une ambiance paysagère, on va dire, qui est ressourçante. Super.
Et qu'est-ce que j'avais demandé ? Qu'est-ce que tu regardes dans ces balades ? Personnel, donc dans ta vie personnelle. Mais alors, tu as un peu répondu. Si c'est en VTT, peut-être qu'il y a moins de temps pour regarder, observer, mais quand même.
Bah, c'est l'ambiance lumineuse, moi, surtout, je dirais, qui me touche particulièrement. Et surtout à l'automne, parce que c'est vraiment magique. Et j'ai un peu découvert ça en arrivant ici, en découvrant l'essence mélèze. C'est le côté filtrant. De ces forêts qui sont jamais complètement fermées, en fait, avec même quand ils ont leurs aiguilles, un couvert qui est relativement perméable à la lumière, assez léger. Donc on voit au travers, on voit les montagnes au travers, il y a beaucoup de lumière, et c'est plutôt ça, cette ambiance lumineuse, ces couleurs-là que je cherche.
Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois, quand tu observes la forêt comme ça avec tes deux dents ?
Eh ben, je ressens un sentiment de naturalité assez forte. En fait, quand on parcourt différents milieux, on se rend compte que le dernier milieu qui est assez peu anthropisé, assez peu touché par l'homme, c'est la forêt ou la haute montagne, évidemment, mais qui offre des conditions un peu plus extrêmes, on va dire, qui amène pas forcément autant à la détente. Donc voilà, un côté connexion à un espace où s'exprime la nature, tout simplement.
Est-ce qu'il y aurait des traits caractéristiques de cette forêt auxquels tu es plus attaché ?
Eh bien, justement, ce sentiment de naturalité, il est d'autant plus fort qu'il y a de la diversité dans la forêt. Et donc, ça me fait revenir à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Plus la forêt est diverse, plus elle dégage ce sentiment de « waouh, là, je suis dans un coin où l'homme n'a pas trop d'impact, ou en tout cas, ça ne se voit pas beaucoup, et c'est super de pouvoir profiter de ça. » Et finalement, ces lieux-là peuvent être assez rares selon les régions où on vit. Nous, on a la chance d'être dans des forêts qui sont gérées d'une manière relativement proche des dynamiques naturelles, avec pas beaucoup de plantations, pas beaucoup de grandes coupes très fortes. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions où même en forêt, on peut avoir le sentiment d'être dans un endroit très interventionniste en termes d'action humaine, quoi.
Finalement, cet aspect de diversité a l'air important pour toi. Est-ce que c'est ce qui compte fondamentalement pour toi dans la forêt ou est-ce qu'il y aurait autre chose ?
Ça compte pour moi autant que la possibilité d'y extraire du bois. Alors ça, c'est peut-être par des formations professionnelles, mais je suis vraiment persuadé à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, que la forêt, elle a un rôle à jouer, le matériau bois a un rôle à jouer dans la grande transition énergétique, écologique, on l'appelle comme on veut, dont on a besoin en France et à l'échelle mondiale. Et donc pour ça, il faut que le matériau bois soit utilisé en construction, en chauffage, et il faut bien le sortir de quelque part. Et donc, je suis très heureux quand je traverse une parcelle où je sens qu'on arrive à faire tout ça en même temps, en fait. On arrive à sortir du bois régulièrement sans dégrader l'écosystème, ou le moins possible en tout cas, et tout en laissant après notre passage une forêt qui est encore diversifiée, qui est encore belle, qui respire encore un peu la nature, quoi. Et ça, quand on réussit ça, moi, professionnellement, je suis fier de notre travail. Et personnellement, je trouve qu'on est dans une forme d'idéal de gestion durable qui est enthousiasmant.
Et quelles émotions est-ce que tu as pu ressentir? Quelles émotions la forêt a pu te procurer dans tes différentes expériences?
Eh bien, j'ai ressenti des négatives, des positives en fonction de où j'étais et de ce que j'ai vu. Les expériences négatives que je retiens, c'est plutôt dans la région dans laquelle j'ai été avant d'arriver dans les Hautes-Alpes, en Auvergne, dans le Massif central, sur un plateau qui avait fait l'objet d'une grande campagne de plantation, donc avec des forêts monospécifiques, enfin, c'est-à-dire toutes de la même essence, toutes du même âge, et avec des grandes coupes à blanc suivies de replantations, où on regroupe toutes les branches dans des grandes bandes. Voilà, quelque chose que, paysagèrement, qui est absolument choquant, écologiquement, avec un impact très fort, et dont on peut même remettre en question la pertinence économique. Mais ça, c'est des débats d'experts qu'on a entre forestiers. Mais voilà, ces expériences-là où j'ai senti que la forêt n'était pas considérée comme de la forêt, mais comme un champ de maïs, un petit peu.
Ça te procurait quoi comme émotion?
Ah, vraiment, de la déception. Je me dis, c'est du gâchis. C'est du gâchis écologique, économique, paysager. Vraiment, de la déception, pas de l'horreur scandalisée, parce que j'étais formé, donc je comprenais les mécanismes, mais voilà, plutôt une déception qu'on n'ait pas trouvé d'autres solutions. Et à l'inverse, ce que je vois plutôt ici, cette sorte de satisfaction de voir des massifs dont on laisse s'exprimer la naturalité, la diversité, tout en en tirant une ressource régulièrement. Donc voilà, le sentiment, c'est de la satisfaction. Une forme de fierté aussi, parce que je fais partie des acteurs qui génèrent ça. Voilà, pour les sentiments positifs.
Ça fait une transition vers justement les autres usages et les autres acteurs de la forêt. La forêt fait l'objet de plein d'usages différents. Tu en parlais un petit peu. Donc toi, j'imagine dans ton travail, oui, mais est-ce que personnellement, tu es en relation avec d'autres usagers de la forêt?
Alors personnellement, oui, et principalement des usagers de loisirs, randonneurs, vététistes, par les activités que moi et mon entourage d'amis faisons. Et par contre, par le côté professionnel, je suis en contact avec beaucoup d'autres acteurs, parmi lesquels figurent les mairies en premier plan, parce qu'ils sont propriétaires de l'essentiel des forêts qui sont autour de nous. L'élevage, les éleveurs, parce qu'on a la particularité dans le Briançonnais et les Hautes-Alpes en général, d'accueillir beaucoup de pâturages en forêt, ce qui n'est pas le cas ou pas autant dans d'autres régions de France. Les chasseurs, et puis aussi dans le cadre professionnel, tout ce qui est activité de loisirs, tourisme, activité de loisirs.
Et lesquels, te parlent? Ça peut être au niveau, commencer par le professionnel, vu que c'est ce sur quoi on a fini là. Quelle pratique, quel autre usage te parle, toi, même si ce n'est pas forcément ce que tu pratiques, toi?
Et bien, ceux avec lesquels on a le plus de rapports, ou en tout cas d'enjeux à travailler ensemble, et ben c'est l'élevage et la chasse, enfin les chasseurs, pour la principale raison que un des défis auquel on est confronté en tant que gestionnaire forestier dans le Briançonnais et dans les Hautes-Alpes, c'est de réussir à renouveler, si possible naturellement, les peuplements de mélèzes qui nous entourent. Et une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est la concurrence de ces deux autres usages, des populations de faune en fait, qu'elles soient domestiques ou sauvages, qui ont un impact direct sur les jeunes semis de mélèzes qu'on s'efforce d'acquérir par un autre travail. Donc il y a vraiment la nécessité qu'on discute avec le monde de l'élevage, avec le monde de la chasse, pour trouver les solutions techniques pour réussir à renouveler la forêt sans renoncer totalement à ces usages-là qui sont attendus par la société. L'élevage, les Hautes-Alpes en ont besoin. La chasse, c'est une pratique de loisir de laquelle on a besoin aussi en forêt pour réguler les populations de cerfs, de chevreuils, de sangliers, etc. C'est notre grand défi des décennies à venir, c'est de réussir à dialoguer avec ces deux usagers-là face à cet enjeu de renouvellement de la forêt.
Et ça, c'est un dialogue qui est déjà établi aujourd'hui ?
Oui, il est établi, on a des canaux pour discuter, mais il est relativement conflictuel, parce qu'on ne va pas toujours dans le même sens. Même si on pense à très long terme, on a tous intérêt à réussir à renouveler le mélésin des Hautes-Alpes, notamment vis-à-vis de l'élevage. En fait, c'est la seule essence qui permet de pâturer en forêt. Dès qu'il y a du sapin, du pin, de l'épicéa, c'est des peuplements, des forêts qui sont beaucoup moins intéressantes pour le pâturage. Donc les éleveurs eux-mêmes ont un intérêt à renouveler la forêt. Mais pour y arriver, ça peut nécessiter, par endroit et pendant des temps relativement longs, plusieurs décennies, de stopper le pâturage le temps que la forêt se renouvelle et que les jeunes arbres atteignent une hauteur qui les rendent hors de portée, hors d'état de nuire vis-à-vis des troupeaux de vaches ou de moutons qui pâturent dans ces coins-là. Donc ça nécessite des compromis, des renoncements, mais qu'il faut vraiment discuter ensemble pour qu'ils soient faits au bon endroit, au bon moment, pour ne pas compromettre l'équilibre économique d'une exploitation et en même temps pour réussir le renouvellement de cette forêt dont on a besoin.
Ce serait ça la solution pour toi ? Ce serait d'avoir des espaces qui seraient protégés pendant un temps ?
Oui, on a aujourd'hui, faute d'études techniques qui nous permettent de comprendre finement comment on pourrait adapter les pratiques de pâturage, la solution la plus évidente et la plus simple, c'est de mettre en défend, c'est-à-dire d'interdire ou de sortir le pâturage de certaines zones dans lesquelles il y a un fort besoin de renouvellement et éventuellement des travaux pour faciliter ce renouvellement-là. Donc, c'est la solution qu'on privilégie. Mais peut-être l'avenir nous dira qu'il y a d'autres façons de faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Peut-être qu'en mettant un peu moins de bêtes, ou en adoptant les pratiques de pâturage, ou en ayant des modes de conduite des troupeaux particuliers, peut-être qu'on pourrait éviter de mettre en défend des parties entières de forêt. Mais ça, on n'en est pas sûr. On n'a pas la preuve aujourd'hui que ça fonctionne. Donc on a vraiment à travailler avec eux pour mettre en défend les zones qui sont urgentes et trouver les solutions techniques qui pourraient peut-être permettre un jour d'éviter ça.
Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui ont des enjeux aujourd'hui pour toi ?
Eh ben la deuxième pratique, c'est la chasse. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est un sujet qui rejoint le précédent parce que c'est aussi une question d'équilibre entre faune et flore. On se doit d'atteindre ce niveau d'équilibre pour que le renouvellement de la forêt il ait lieu et qu'on puisse pérenniser tous les usages de la forêt. Un des enjeux, c'est de réguler les populations de cerfs, chevreuils principalement, qui sont les espèces qui ont le plus d'impact sur les jeunes arbres. Et donc, on a un défi à réussir à estimer ce niveau d'équilibre, à dire, sur tel massif, il nous faudrait à peu près tant de bêtes. Et donc là, il y a une négociation permanente. Les instances existent, les lieux de dialogue existent avec l'univers de la chasse, mais ils sont pas forcément très fluides et on va pas forcément toujours dans le même sens. Les forestiers ayant toujours tendance à dire qu'il y a trop d'animaux, et les chasseurs plutôt pas assez. Et donc, il faut qu'on dialogue suffisamment pour trouver le compromis et atteindre les situations d'équilibre dont on a besoin. Donc voilà les deux grands usages avec lesquels on travaille nous au quotidien, qui sont le plus grand défi pour les 10-20 ans à venir. Mais un autre usage qui est hyper important sur notre territoire, c'est le tourisme. C'est l'activité numéro un, on va dire, dans les Hautes-Alpes et qui a son lot d'impact pour nous en tant que gestionnaire forestier en imposant, par exemple, des périodes pour la réalisation des travaux forestiers, des périodes à éviter, principalement en saison estivale. Et ce qui est contraignant pour les gestionnaires et pour la filière, parce que la saison d'exploitation, elle est déjà courte en montagne. Tu fais de la neige, on ne peut plus exploiter courant novembre, entre fin novembre et début novembre, selon les années et selon les massifs. Et donc, quand on nous impose de ne pas exploiter avant que les touristes soient partis, à savoir mi-août, début septembre, ça fait une fenêtre de tir pour exploiter toute la forêt des massifs environnants, qui est vraiment très très courte. Et ça, c'est une grosse difficulté, mais c'est une contrainte à laquelle on est plutôt habitué et qui est, j'allais dire, normale par rapport à l'économie de ce territoire, à son fonctionnement. Enfin, on n'est pas, nous, les forestiers, dans un vase clos, à faire notre truc dans notre coin. On est obligé de tenir compte de ces autres usages-là. Donc, il est contraignant, mais il se gère. Et c'est des questions de période, de planning. Mais il renvoie quand même à un autre sujet qui, lui, est plus compliqué, c'est l'acceptation de nos travaux par le grand public. C'est pas tellement avec le public touristique, je pense, qu'on a le plus de difficultés, mais peut-être plus avec les habitants du territoire. On a quand même des difficultés, que je dirais croissantes, à faire accepter les travaux forestiers qu'on réalise en forêt, les coupes, principalement les coupes de bois. Donc, c'est pas tellement les coupes d'arbres en elles-mêmes qui sont contestées, mais plutôt toutes les créations de pistes qui permettent de desservir les parcelles et ensuite de réaliser l'exploitation. Ça, c'est assez mal accepté parce qu'aujourd'hui, on a des gros engins. Pour permettre à un tracteur forestier de circuler, c'est 3 mètres, 3 mètres 50 de large. Hein. C'est plus des petites emprises comme les engins d'il y a 40 ans. Donc, ça se voit dans le paysage, au moins temporairement, parce que ça finit par se revégétaliser. Et même si on voit encore le profil du terrain, une fois que c'est revégétalisé, c'est déjà beaucoup plus discret. Mais pendant 2-3 ans, il y a un impact qui est fort et qui est gênant pour les usagers. Et ceux qui se plaignent le plus sur le sujet, c'est les professionnels du tourisme, en tout cas qui l'expriment le plus, les accompagnateurs en montagne, les moniteurs de VTT, parce qu'il y a aussi un impact sur leurs sentiers balisés, leurs itinéraires habituels. Et donc, pour pallier ça, nous, sur le Guy S3 Kera, on a essayé de mettre en place une communication plus intense, plus intensive et régulière qu'avant, où on informe tous les professionnels du tourisme du territoire, de chaque coupe qui a lieu sur le territoire, de sa période. On leur dit « Attention, dans une semaine, telle coupe va commencer à tel endroit, on propose telle déviation. » Pour limiter au maximum les désagréments des activités forestières sur les activités touristiques. Le pire étant que une coupe compromette un itinéraire qu'avait prévu un guide ou un accompagnateur en montagne avec ses clients qui se retrouvent face à un sentier fermé et qui ne sachent plus quoi faire. Donc on essaie d'éviter ces situations.
Qui se retrouvent surpris en fait par le phénomène et qui puissent anticiper finalement.
C'est ça. Donc on démine. Et on diminue pas mal les tensions en anticipant. Ça change pas l'impact des travaux, même si nous, on fait notre maximum pour les réduire. Mais au moins, il n'y a pas l'effet de surprise. Et c'est déjà beaucoup, et c'est une démarche très appréciée.
Ce que j'allais demander, vous avez des retours sur cette anticipation? Est-ce qu'elle elle permet quand même de réduire les désagréments pour les personnes concernées?
Oui, on a beaucoup de très bons retours des professionnels suite à la mise en place de cette communication-là.
Et donc, on écoutait une musique qui parlait des coupes rases, des mécanos. Tu disais que toi, c'était une pratique contre laquelle tu étais, en général, enfin, en tout cas, sur laquelle tu t'engageais, tu te positionnais. C'est une pratique qui a lieu dans les Hautes-Alpes?
Très peu dans les Hautes-Alpes, où il y a un historique de gestion de la forêt qu'on appelle à couvert continu, c'est-à-dire qu'on passe jamais par l'étape zéro. Il n'y a plus d'arbres du tout sur la parcelle. C'est historique dans les massifs alpins pour plusieurs raisons. La première étant la gestion du risque naturel, puisqu'on est dans des secteurs de montagne avec des risques avalanches, chutes de blocs, érosion, crues torrentielles. Et il y a la nécessité de préserver au maximum le couvert forestier qui soit continu dans le temps pour pouvoir qu'il y ait toujours des obstacles ou des freins à l'expression de ces phénomènes-là qui peuvent être catastrophiques pour les intérêts humains. Quoi. Donc c'est ce qui a principalement justifié le choix de ce type de sylviculture, mais qui a aussi d'autres atouts qui correspondent aux attentes du territoire, à savoir qualité paysagère. Au maximum, dans cette sylviculture-là, on prélève 20-25% des arbres en place quand on fait une coupe. Donc, quand on passe en coupe, il y a toujours les trois quarts de la forêt qui est encore là quand on est passé. Paysagèrement, c'est relativement discret, sauf le sujet des pistes en elles-mêmes qui peut porter à débat. D'un point de vue écologique, une intervention légère est forcément moins impactante par rapport à l'écosystème forestier. C'est dans nos territoires de montagne adapté pour des questions de risque naturel, de paysage et d'écologie. Donc c'est le choix qui est fait historiquement et qu'on continue de faire dans les Hautes-Alpes.
Et pourquoi tu es contre ces coupes, même ailleurs ?
Bon, ça, c'est une posture assez personnelle, mais que je défends aussi dans le domaine professionnel, parce que je pense que c'est une pratique qui est dommageable sur les trois aspects que je viens de citer et qui est même contestable d'un point de vue de la rentabilité que l'approvisionnement en bois sur le long terme. C'est-à-dire que, tout simplement pour la raison que en laissant un maximum d'arbres sur place, ben on laisse un maximum d'arbres producteurs de bois. Et donc, on stabilise, voire on augmente la production de bois sur une parcelle donnée en la laissant toujours avec le plus de bois possible. Quoi.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Là, on a parlé de ton rapport à la forêt, à toutes ces pratiques d'un point de vue professionnel, finalement. D'un point de vue personnel, est-ce que l'avenir de la forêt t'inquiète et éventuellement inquiéterait tes activités en forêt?
Alors, je ne m'inquiète pas beaucoup pour la forêt, même si on a tendance à être très alarmiste sur l'impact du changement climatique sur la forêt, parce que je sais, je pense que la forêt trouvera toujours des solutions d'adaptation, éventuellement par contre en passant par des stades d'effondrement ou de dépérissement assez importants. Mais il y aura toujours une végétation nouvelle, éventuellement composée d'autres essences, qui va s'installer. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement l'évolution de la forêt, mais c'est les risques d'un effondrement comme celui-là vis-à-vis des usages de la forêt. Donc c'est plutôt nous, les humains, et les attentes qu'on a de la forêt qui avons de quoi nous inquiéter par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, si on continue d'avancer dans le dérèglement climatique, à du coup intensifier les périodes de sécheresse, on pourra vivre dans les Hautes-Alpes, comme le vit déjà la Savoie voisine, des dépérissements importants. Chez eux, c'est l'épicéa, mais chez nous, ça peut être le mélèze ou le pin sylvestre, on commence déjà à le voir, tout de suite ou demain. Donc, la forêt, elle finira par s'en remettre. Si ça prendra 200, 300, 400, 500 ans, mais il y aura de la forêt qui reviendra, même si le mélèze est fortement impacté. Par contre, nous, c'est une filière qui va s'effondrer, c'est un paysage qui va s'effondrer, c'est des écosystèmes qui vont être bousculés. Et en termes d'usage humain, pareil pour le pastoralisme. Donc voilà, on risque de souffrir par rapport à nos attentes, nous, sociétales, de cette situation.
Est-ce que toi, tu aurais des attentes particulières pour cette forêt? Donc des attentes peut-être d'action de la part de certains acteurs autour de cette forêt face à cet avenir?
Eh bien, la première action, mais on l'appelle tous de nos voeux, je crois, j'espère en tout cas, c'est qu'on lutte contre le dérèglement climatique pour éviter ces périodes de crise à laquelle la forêt, y compris dans les Hautes-Alpes, risque d'être confrontée. Donc ça, c'est un combat mondial, mais qui bénéficiera à la forêt. Ensuite, pour être dans notre problématique plus locale, ça me fait revenir sur les deux acteurs cibles avec lesquels on doit vraiment travailler dans les décennies à venir. C'est le monde de l'élevage et de la chasse, parce que on est dans une situation qui n'est pas équilibrée aujourd'hui en matière de renouvellement forestier. Donc ça pose une problématique de production forestière et aussi une problématique d'écologie forestière, d'écosystème forestier, de vitalité, de vigueur, et donc de capacité de résistance de cette forêt à tout ce qu'elle va subir dans l'avenir. Les aléas climatiques, les parasites qui vont avec éventuellement. Donc plus on a une forêt équilibrée, diversifiée, plus on a une forêt qui va être résistante à des aléas, et si les aléas ont quand même lieu, qui va être résiliente, c'est-à-dire qui va être capable de se reconstituer rapidement, de cicatriser relativement vite suite à la blessure qui lui aurait été infligée. Et donc mon attente localement, c'est de réussir à travailler avec l'élevage, avec la chasse, pour qu'on arrive à baisser la pression de faune, qu'elle soit domestique ou sauvage, sur nos jeunes arbres en forêt, et qu'on réussisse comme ça à retrouver des écosystèmes forestiers un peu plus vigoureux, un peu plus en capacité de gérer les aléas qui vont subir dans les décennies à venir.
On est reparti sur le professionnel. Ce sont tes avis professionnels et personnels, finalement, ont l'air quand même d'être assez entremêlés sur la forêt.
Oui, ils sont très entremêlés. C'est la passion du métier.
Alors, on va passer aux dernières questions. Il va bientôt être temps de clore cette émission. Sur une note toujours dans le futur, mais peut-être plus positive, est-ce qu'il y a un idéal de la forêt qui t'inspire? Ça peut aller dans l'imaginaire.
Moi, j'ai une image en tête d'un voyage d'études que j'ai fait quand j'étais sur un précédent poste en Auvergne, où j'étais allé en Slovaquie dans une forêt qui n'était pas primaire, mais qui était en libre évolution depuis des siècles, au moins 300 ou 400 ans. Et pour moi, c'était un peu l'idéal de la forêt que j'imaginais en tant que futur gestionnaire forestier. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment de forêt naturelle très très fort, une grande diversité d'arbres, des arbres très très gros, au milieu de tout jeune.
Très dense.
très dense pour réutiliser ce terme. Et en même temps, une qualité purement économique de bois, enfin, qui ferait rêver n'importe quel acheteur de bois. Et ça a été une espèce de révélation, cette visite-là, en me disant, waouh, en fait, la nature produit naturellement des bois exceptionnels quand on la laisse s'exprimer avec le plus de spontanéité et de naturalité possible. Et donc, la qualité écologique et la qualité économique sont complètement compatibles dans le même espace. Et c'est une forme, en tant que gestionnaire forestier, pour moi, ça a été une forme d'idéal à poursuivre. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire au quotidien.
Merci. Alors, deux phrases pour finir cette émission, deux phrases à finir, Vianney. Si je te dis, j'ai un secret avec la forêt qui est... Enfin, ou si tu nous dis, j'ai un secret avec la forêt qui est...
Les coins à champignons.
Ah, ça se partage pas, ça.
Bah, c'est un secret, du coup.
Tu veux pas nous en partager un à l'antenne ?
Non, ça se fait pas. Ça se fait pas.
Et la seconde, alors, et le message que j'aimerais transmettre est...
Partageons la forêt et prenons-en soin.
Merci Vianney Ting. Donc je le rappelle, tu es responsable d'unité territoriale Guy S3 Kera à l'Office national des forêts. Merci d'avoir répondu à nos questions dans cette émission Raconte-nous la forêt.
Merci à vous.
Votre émission Raconte-nous la forêt est à retrouver tous les premiers samedis de chaque mois à 9h et en rediffusion les dimanches à 18h10. Elle est également disponible en ligne sur le site de Fréquence Mistral, Briançon.